10 jours après avoir annoncé son intention de demander la confiance du Parlement, les chances du gouvernement de François Bayrou de survivre à ce vote ne paraissent pas s'être améliorées et ses multiples consultations des chefs de parti n'ont pas permis de renverser la vapeur. Il est donc pratiquement certain que la France se trouvera à nouveau sans gouvernement dès le début de la semaine prochaine, et cela alors qu'il est également probable que le pays fera face à la pire contestation sociale depuis des années. En effet, les appels catégoriels à la grève se multiplient et la CGT a annoncé espérer des semaines noires pour le gouvernement. Comme attendu, la pression monte d'ores et déjà autour du président de la République lui-même pour appeler à une dissolution, son départ ou les deux à la fois. Et dans le même temps, le sujet du Mercosur réinscrit ses futurs troubles dans le contexte d'une crise politique européenne qui, de son côté, continue également de mûrir. Bref, c'est toute la gouvernance française et européenne qui, en cette rentrée, semble au bord du gouffre. Nous sommes le 5 septembre 2025, il est 21h43. Bienvenue dans cette nouvelle émission. Je suis en train de m'amuser parce que j'ai l'impression que j'ai l'impression que l'histoire des 5 secondes au début, Léo, ça le fait aussi quand on sort du générique.
Non, quand on sort du générique, ça fait une demi-seconde.
D'accord, parce que... Bref.
Je l'ai vu.
Pas grave, je suis Philippe Fabry pour ceux qui ont raté l'info, mais je pense que vous le savez. Bienvenue à tous dans cette émission pour ce soir. On a encore des choses à caler, mais peu importe, parce que finalement, dans le désordre global qui touche l'ensemble du pays, je pense que ça ne fera pas de tâche. Je suis ravi d'être avec vous ce soir, ce live hebdomadaire. Donc, nous enchaînerons avec un live privé des souscripteurs dans lequel nous répondrons à leurs questions et nous répondrons aux questions de ceux qui veulent poser des questions, qui ne sont pas souscripteurs, s'ils sont accompagnés d'un don avant la fin de ce live et avant de passer dans le live privé. Ce soir, donc, la suite un petit peu de notre feuilleton désormais, l'anticipation de ce qui va se passer la semaine prochaine. Il faut se mettre bien au carré pour savoir quel est le contexte. Alors, j'ai fait un petit exercice cette semaine qui a consisté à faire un petit montage de la vidéo de l'année dernière à laquelle j'ai renvoyé souvent sur pourquoi une révolution arrive en France. Parce que le live lui-même, bon, il y avait des choses qui dataient, il y avait une intro qui était un peu longue, il fallait attendre 5 minutes avant d'en venir au cœur, alors je me suis dit que c'était bien de le raccourcir, puis pour le repartager, donc je l'ai repartagé sur Twitter, elle a été bien vue sur la chaîne aussi, et surtout je l'ai monté en rajoutant à la fin ce que j'avais dit quelques mois plus tard, c'était en septembre l'an dernier, en comparant également avec ce qui s'était passé en Ukraine, et je rappelais que Yanukovych était parti, lui, un an avant la fin de son mandat, hein, c'était pour illustrer le fait qu'on parle sans arrêt de la prochaine élection n'est pas, selon moi, un empêchement total à la démission d'Emmanuel Macron, parce que, ben, justement, le cas d'Yanukovych montre qu'on peut être amené à démissionner alors qu'il y a une échéance qui est relativement proche. Et pour l'instant, on est même à 2 ans pour ce qui est d'Emmanuel Macron, un peu moins. Donc, il y a également une possibilité de ce côté-là. Alors, je ne vais naturellement pas revenir là-dessus, à quoi mes chers auditeurs sont habitués. Et encore une fois, il suffit d'aller revoir cette vidéo qui fait partie des essentiels en accès libre pour donc, n'importe qui, même si vous êtes de passage, vous pouvez aller la découvrir et l'écouter. Et simplement, c'est bien d'avoir en tête ces bases, ces fondamentaux pour parler de ce dont on va parler maintenant. Parce qu'une chose que je devrais rajouter, d'ailleurs peut-être que j'essaierai de faire une synthèse aussi là-dessus en allant chercher les vidéos où j'en parlais, on va mettre ça en lien aussi avec ce qui se passe à l'échelle européenne, puisqu'il y a aussi une évolution, alors qui n'est pas aussi mûre, on va dire, qu'à l'échelle française, hein, où vraiment on a l'impression d'être en bord de crise, on vérifiera dans la semaine si c'est le cas effectivement, mais voilà, il y a des choses qui se mettent en place aussi, et vu que ça fait un moment que je vous explique que selon moi, une crise déclenchera l'autre, eh bien, c'est important d'avoir à l'esprit que ben, il se passe aussi des choses à l'échelle européenne. Alors, on va d'abord repartir un petit peu de la France et voir un petit peu ce qui se raconte. En essayant, en premier temps, chose intéressante, on a appris des choses sur le comment tout ceci s'est décidé. C'est toujours intéressant de voir ça, en particulier parce que ça me permet d'illustrer une chose importante que j'ai souvent eu à expliquer ici, puisqu'on m'a souvent dit à propos de telle ou telle figure au pouvoir, il ne peut pas y avoir de révolution parce que tel personnage n'a pas intérêt à faire la révolution. On m'avait dit par exemple, Gérard Larcher n'est pas un révolutionnaire, donc il n'a pas intérêt. Pourtant, ça ne l'a pas empêché de mettre la pression à la censure sur Emmanuel Macron en disant qu'il ferait censurer à l'automne 2024, ce qui a poussé Emmanuel Macron à dissoudre dès la sortie des européennes, pour anticiper. Et là, on a un autre cas. On a un autre cas avec l'histoire de François Bayrou, justement. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Et j'ai envie de dire, même, vous allez voir que d'une certaine manière, ça confirme ce que je vous disais, parce que j'ai encore eu beaucoup de gens qui sont venus me dire, oui, mais Bayrou, il a fait un calcul sur les boomers, il a essayé tout ça, c'est politique, etc. Moi, je veux bien qu'il ait rebondi sur, en voyant que ce qu'il avait dit avait lancé une espèce d'élan pendant quelques jours. Ce qui ne l'a pas amené loin d'ailleurs, mais il reste que pour moi très clairement la façon dont c'est parti à la base, c'est-à-dire sa petite sortie, sa remarque accessoire en toute fin d'interview, c'était un truc véritablement qui lui a pour ainsi dire échappé. C'est le cœur qui a parlé, mais ce n'était pas un calcul politique. Et ça me paraît d'autant plus sûr quand on a appris, puisque c'est sorti dans la presse. Et ça a été corroboré d'une certaine manière par ce qu'a expliqué Nicolas Sarkozy aussi, dans un petit extrait d'interview. Je ne sais pas si c'était une conférence qu'il devait donner avec quelqu'un qu'il questionnait sur la position d'Emmanuel Macron sur tout ça, qui nous donne des informations. D'après les informations donc, qui sont sorties, alors je ne sais plus dans quel journal c'était, je ne sais pas si c'était pas dans le Figaro ou Marianne, je ne sais plus, c'est pas grave. En tout cas, c'était extrêmement intéressant. Je crois que je l'ai repartagé sur X d'ailleurs l'autre jour. Bayrou était persuadé et a demandé son vote de confiance en étant persuadé de jouer un coup de maître, ce qui est assez typique de Bayrou, parce que encore je fais une autre digression, mais enfin, si vous prenez toute l'histoire de Bayrou, en fait vous apercevez que ce mec a fait toute sa carrière politique en faisant régulièrement, alors en faisant tout le temps des conneries, mais de temps en temps en faisant une connerie qui lui portait bonheur. Alors par exemple, il avait giflé le petit maghrébin qui lui faisait les poches disons, pendant la campagne de 2007, et il avait pris des points, parce que les gens s'étaient dit « Ah, du coup, voilà et là, il a sorti le truc des boomers. Pareil, souvent, Bayrou fait ça, mais en fait, c'est une réaction qui vient du « Voilà, le mec, c'est pas calculé, c'est pas... » Et donc, c'est pas du génie, et donc, ça peut pas arriver tout le temps, je veux dire, c'est pas maîtrisé du tout. Mais le mec a fait souvent des coups comme ça, et du coup, lui, vraisemblablement, il croit qu'il est capable d'être génial et d'avoir des coups comme ça. Et en l'occurrence, semble-t-il, il était persuadé que Marine Le Pen, que le Front Rassemblement National, ne le censurerait jamais, pour deux raisons. Un, Marine Le Pen étant inéligible, qu'elle ne se risquerait pas à lancer un nouveau processus électoral sans pouvoir se présenter, ou sans être sûre de pouvoir se présenter. Et d'autre part, comme il lui promet, et effectivement il l'a quand même promené pendant 9 mois parce qu'on n'a rien vu venir, la proportionnelle, il se disait que ça l'obligerait à être neutralisé au moins le temps d'adopter un nouveau budget. Et apparemment, il était sûr de ça. Ce qui paraît quand même dingue, parce que c'est quand même extrêmement léger. Et je veux dire, tout le monde, quand il a annoncé son truc, tout le monde s'est dit, bon, il est mort, quoi. Parce qu'on avait quand même vu les sondages avant. Et je veux dire, il n'y aurait pas eu les sondages qui montraient que la censure était majoritaire, j'aurais éventuellement pu comprendre son calcul. À partir du moment où on avait des sondages catastrophiques, l'annonce des blocages, etc., ça paraissait très compliqué. Alors peut-être que le calcul sera finalement génial s'il saute pas lundi, mais enfin, personne ne semble y croire à ce stade. Bon. Et chose très intéressante, dans ce qu'a expliqué Sarkozy sur ce que disait Macron, pour moi le plus intéressant, c'est ça, plus que tout le reste, c'est il dit que, et d'ailleurs Sarkozy fait une tête très marrante parce qu'on sent qu'il a pas compris comment l'autre pouvait croire ça, que Macron était persuadé que Bayrou pouvait se maintenir. Et Sarkozy, en gros, c'est n'importe quoi. Et donc, je pense que le calcul que faisait Bayrou, soit il l'avait vendu à Macron, soit Macron simplement convergeait dans la même analyse en se disant Marine Le Pen neutralisée, ça passera pas. Et donc pourquoi c'est très intéressant, parce que ça vous montre à quel point les gens font des erreurs de calcul, à quel point ils apprécient mal les situations dans ce genre-là, et à quel point donc c'est ce que j'avais expliqué une fois en vous expliquant les choix contraints. À quel point le processus est déterminé par le fait que les gens vont forcément faire ce genre de conneries à des moments. Parce qu'ils ne comprennent pas qu'on est entré dans un régime d'instabilité tel que ces choses-là peuvent arriver très souvent. Ces gens, ils sont habitués encore au fait que la censure soit quelque chose de totalement exceptionnel, ils ne pensent pas que ça peut réarriver. Bah ben si, si justement. Ils ne comprennent pas qu'on est entré dans un nouveau type de dynamique et ça les amène à faire ce genre de choix. Même s'ils ne sont pas du tout révolutionnaires, et pourtant le choix de Bayrou là, va sans doute encore une fois précipiter les choses, puisque comme je vous l'avais rappelé la dernière fois, il fait sauter un certain nombre de verrous lui-même, il facilite le travail de tous ceux qui veulent le censurer, parce qu'ils n'ont même pas à s'accorder sur une forme de texte. Voilà. Il suffit juste de ne pas lui voter la confiance, de voter contre la confiance. Et c'est vraisemblablement ce qui va arriver. Donc ça déjà c'est très intéressant, ça vous montre sur la façon dont le pouvoir est mal lu, et on comprend mieux du coup exactement ce qui s'est passé, et ce qui était dans le calcul de Bayrou. Donc c'était même pas aussi, travaillé que l'idée de se présenter à la présidentielle ensuite, c'est véritablement qu'il pensait survivre à tout ça. Alors ça a amené à des choses intéressantes quand même, hein, j'en ai déjà parlé je crois, notamment le fait qu'il ait tenu son espèce de grand discours multichaîne dimanche dernier, qui ça classiquement est un exercice du président de la République. Ça n'existe jamais, jamais un Premier ministre n'a fait ça en France. Le fait que ce soit le président d'habitude qui le fasse et que désormais ce soit le Premier ministre qui se lance dans ce genre d'exercice, ça vous montre déjà le basculement institutionnel qui a déjà commencé. Donc ça c'est pour l'histoire disons qui nous a amené là. Alors maintenant pourquoi est-ce que tout va vraisemblablement se casser la figure? Eh bien première chose, la première question c'est de savoir est-ce qu'il peut y avoir après le 8, donc après quand François Bayrou sera tombé, s'il démissionne, enfin je pense que si on lui vote pas la confiance il sera obligé de démissionner, il peut pas se maintenir alors qu'il aura pas eu la confiance, ridicule, sinon ça va vraiment gueuler le 10. Est-ce qu'il y a une possibilité alternative? Parce qu'il y a cette idée-là, Emmanuel Macron a eu l'air de dire qu'il n'avait pas envie de dissoudre, etc. Ça paraît extrêmement compliqué. Ça paraît compliqué pourquoi? Parce que Macron a essayé de dire au LR et à sa majorité, c'est-à-dire les macronistes au centre, de s'entendre avec les socialistes. Or, il est très peu vraisemblable que les socialistes soutiennent un nouveau gouvernement centriste. Pas avec tous les sondages sur lesquels on a fait le point il y a 15 jours, clairement, ça paraît plus possible. D'autant plus que depuis que le PS est bien solidement ancré dans la main d'Olivier Faure depuis le congrès de juin dernier, Olivier Faure, il est partisan assez clairement de l'alliance avec LFI. Donc il n'est pas dans une volonté de poursuivre le soutien. Il a été obligé d'être prudent pendant toute la première moitié de l'année parce qu'il n'était pas sûr d'être reconduit dans son congrès. Maintenant qu'il est reconduit, il peut mener sa politique. Et clairement, c'est côté à gauche toute. À tel point que quand l'idée a commencé à germer, qui a été défendue notamment par Dipome Villepin, que cette fois-ci, il faudrait nommer un Premier ministre de gauche, Olivier Faure a annoncé, c'est sorti ça aussi dans les médias, que si le PS était nommé à Matignon, aucun ministre du centre et de la droite ne serait nommé, et que donc ce serait un gouvernement exclusivement de gauche. Or, un gouvernement uniquement de gauche qui ne chercherait aucun appui au centre, voire au centre droit, n'aurait aucune chance de ne pas être censuré. Enfin, ça n'est pas possible. Puis en plus, ça voudrait dire probablement aller chercher des ministres jusque chez LFI, et là, forcément, ça tiendrait pas. Donc cette solution ne paraît pas viable. Alors peut-être que Macron va s'illusionner, comme le pense Sarkozy pendant quelques semaines, sur le fait de pouvoir trouver un autre ministre avant de dissoudre, mais ça paraît très compliqué. Ça paraît très compliqué, d'autant plus que la crise sociale, elle, se sera engagée, et qu'il risque d'y avoir, puisque je crois que la première notation de Fitch, me semble-t-il, doit intervenir mi-septembre, je crois que c'est 12 d'ailleurs, et donc ça pourrait commencer à tanguer un petit peu dans ce sens-là. Donc ça c'est la première chose, le côté illusion de solution au centre. Deuxième chose qu'il faut noter aussi, on a désormais des sondages sur la chute d'Emmanuel Macron qui sont en train de grimper très fort. Alors, ce n'est pas les seuls d'ailleurs. Il y a d'autres sondages qui sont en train de monter très fort. C'est ceux qui montrent la défiance vis-à-vis du personnel politique. On s'aperçoit qu'il n'y a que 15% des gens qui estiment que le personnel politique est compétent. Alors, ce qui à la fois est désastreux et terrible pour le pays, à la fois rassurant sur la... sur la lucidité de la population qui se rend compte que ces élites sont incompétentes. Mais chose encore plus intéressante, 64% des Français souhaitent la démission d'Emmanuel Macron. À l'été dernier, ou après la chute de Barnier, je crois, on était monté à 56, me semble-t-il. Donc 64, on est encore au-delà. Quand même. Ça devient quand même très très important quand vous avez les deux tiers des gens qui souhaitent la démission d'Emmanuel Macron. Donc ça aussi, ça jette une couleur, on va dire, sur ce que sera l'agitation sociale qui va démarrer dans la rue. Cette agitation sociale, elle grimpe, elle monte, elle s'appuie. Alors, je vais parler de l'Europe tout à l'heure, mais d'ores et déjà, vous avez des syndicats agricoles, vous avez la coordination rurale qui a décidé de rejoindre la contestation. Vous avez les syndicats qui se sont engagés là-dedans. Et c'est extraordinairement important parce que on entend de plus en plus parler de notes du renseignement, de ce que pense le renseignement de ce qui va se passer. J'ai vu qu'il est question d'une mobilisation attendue de 100 000 personnes. Alors 100 000 personnes, ça peut paraître ridicule, je n'en doute pas. Hein, ce n'est pas d'énormes manifestations qui rassemblent des millions de personnes comme pendant la réforme des retraites. Mais on est sur autre chose. On est sur des gens qui sont sans doute beaucoup plus punchy et il faut se souvenir, il faut aller rechercher les chiffres des manifestations des Gilets jaunes. La toute première manifestation, 17 novembre 2018, il y avait à peu près 300 000 personnes, un peu moins apparemment, sur l'ensemble du territoire. Mais les actes qui ont été très durs des Gilets jaunes, ceux qui ont vu Paris en flammes, pour ainsi dire, c'est 24 novembre, 1er décembre, c'est-à-dire les actes 2, 3 et ensuite l'acte 4. Et là, à chaque fois, on était entre 100 et 140 000 manifestants. D'accord. Ce qui peut paraître très peu, mais si vous vous souvenez, c'était le pays en flamme, Paris saccagé, la police et les compagnies de CRS en déroute et le régime qui était pratiquement qui semblait au bord de l'effondrement pour les gens qui étaient dans l'action. Ça n'a peut-être pas été le cas parce qu'à aucun moment le président a perdu le soutien des élites du régime. Il y avait une unité, encore une fois, je l'ai expliqué maintes fois, du corps des élites non gouvernantes derrière les élites gouvernantes. Cette fois-ci, on n'est pas dans la même configuration. Et en plus, autre chose importante, les actes des Gilets jaunes, c'était des samedis. Donc forcément, les samedis, les gens ne travaillent pas. Ça. Là, ce serait pour un mercredi, vous auriez déjà autant que sur les actes des Gilets jaunes qui ont fait mal. Et avec des gens qui sont visiblement très remontés et qui ont des volontés d'action directe sur le terrain. C'est ça qui remonte des renseignements. Hein. Avec des actions dans les supermarchés, des actions dans un dépôt de carburant, des volontés de blocage de choses comme ça. On aura probablement des trucs comme à l'époque des Gilets jaunes, c'est-à-dire des gens qui couvrent les radars, qui font le passage gratuit au péage, etc. Ça, c'est tout à fait vraisemblable. Et donc, on a un mouvement social qui s'annonce, qui risque de durer, qui en plus est soutenu par les syndicats, avec des grèves importantes, notamment dans les transports, à partir de la semaine suivante. Ça tout commence pas le 10, mais enfin, ça va arriver. Qui sont là. Donc, on aura vraiment, vraisemblablement un mouvement social et un mouvement social dur, avec, je le répète, j'ai déjà dit cette dernière semaine, mais c'est de plus en plus vrai, j'ai envie de dire, avec une gauche qui est particulièrement tendue et particulièrement apte à la violence depuis quelques temps, et qui le montre de plus en plus. Et vous avez une population qui, elle-même, est clairement de plus en plus fatiguée par ça. On voit de plus en plus de témoignages d'entrepreneurs qui en ont marre de payer, de témoignages de gens qui vous parlent du fait que, en gros, il faut arrêter, il faut faire du black. Donc ça aussi, ça fait partie, en fait, d'une espèce de mouvement. Alors c'est intéressant, mais il y avait déjà ça à l'époque des Gilets jaunes un petit peu. C'est une espèce d'idée de mouvement de grève alternative. C'est-à-dire, c'est pas forcément le fait d'arrêter de travailler, mais c'est le fait d'affirmer comme moyen de résistance passive ou active une espèce de désobéissance civile larvée. C'est-à-dire le fait de essayer d'en payer le moins possible, de frauder le maximum, peut-être pour certains. C'est ça la dynamique qui apparemment est en train de se mettre en place, et ça, si ce genre de choses se mettent en place, ça devient très compliqué, surtout que c'est quelque chose qu'en fait on voit déjà de plus en plus. Les échanges, il y avait une vidéo qui a été diffusée par Draw My Economy sur X l'autre jour, où il soulignait que si vous allez dans certaines banlieues, vous allez avoir tout un tas de stands de fabrication de nourriture, de vente de choses plus ou moins à la sauvette, enfin des étals, des marchés improvisés, organisés comme ça. Et c'est la façon dont il formule surtout. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en arrière de ça, il dit vous avez tout un tas de boutiques dont le rideau est fermé parce que les commerces sont fermés. Et donc, il y a un petit côté presque déjà nouveau Moyen-Âge, en fait, où vous avez les bâtiments officiels où l'activité avait lieu, qui sont fermées et les gens qui s'installent devant, presque dans les ruines, pour continuer à mener l'actuelle activité, mais hors des clous, hors des déclarations normales, hors du fonctionnement normal de l'État-providence qui a été mis en place. Et ça, c'est quelque chose qui se développe, semble-t-il, de plus en plus. Donc, tout ça pour dire qu'il y a déjà un ancrage, en fait, dans la pratique de toute une partie de la population, qui est déjà conforme à cette espèce de changement. Alors, il y a un côté tiers-mondisation, c'est évident, dans le fait de se mettre à fonctionner comme ça, mais il y a un côté aussi tiers-mondisation dans le sens de soviétisation, véritablement. C'est-à-dire que de plus en plus, l'économie étant tellement contrôlée, de plus en plus, les gens se tournent vers le marché noir, des circuits alternatifs, etc., c'est-à-dire des endroits où ils échapperont à la prédation. C'est au-delà de la courbe de l'affaire, en fait, parce que la courbe de l'affaire, c'est au bout d'un moment un impôt se met à rapporter moins quand il est trop élevé, mais au-delà de ça, c'est carrément toute l'économie qui sort au-delà de la courbe de l'affaire pour essayer de continuer à tourner, parce que sinon elle est plus viable dedans. Donc quand vous essayez d'étouffer une économie comme ça, elle ne s'éteint pas juste, il y en a toute une partie qui simplement sort et entre dans la clandestinité, en fait, tout simplement. Donc l'idée, c'est que l'activité prend le maquis, d'une certaine manière, contre le gouvernement, et ça devient extrêmement inquiétant sur la capacité de percevoir les impôts et de continuer à faire tourner le système, parce que ne faut pas oublier qu'une des raisons pour lesquelles, et d'ailleurs c'est souvent souligné par les commentateurs, pour lesquels les créanciers font encore confiance à la signature de la France, c'est parce que les impôts rentrent et que tout le système de perception, que ce soit l'URSSAF ou le Trésor public, est extrêmement efficace. Simplement, ce système-là, il est extrêmement efficace tant qu'il fonctionne, justement. À partir du moment où vous commencez à entrer dans autre chose, ça devient plus compliqué. À partir du moment où vous avez une clandestinité qui devient de plus en plus naturelle pour un certain nombre de gens, avec la clandestinité, il faut se rendre compte que vous avez une forme de violence qui se redéveloppe. Alors, ça ne vous met pas immédiatement au niveau du narcotrafic, si vous voulez, mais à partir du moment où vous êtes dans la clandestinité ou exercez votre activité, comporte des risques supérieurs à ce que ça devrait faire normalement, mais que de toute façon, ça reste rentable pour vous d'encourir ces risques, parce que sinon, ça vous coûterait beaucoup plus cher, et simplement, vous ne pourriez même pas faire votre activité. À ce moment-là, ça vous rend peut-être plus apte à la violence pour éviter, ben, ne serait-ce que par exemple, les contrôles. Surtout si vous savez qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont dans votre situation. Pourquoi je dis ça ? Ben parce que ça peut arriver avec l'état de dégradation, et ça peut arriver assez vite, surtout si les violences sociales recommencent, comme à l'époque des Gilets jaunes, assez vite. Ça peut arriver que vous pouvez commencer à voir des violences qui s'exercent contre les agents de l'État, mais notamment contre, ben, par exemple, les contrôleurs fiscaux, les contrôleurs USAF, etc. Et à ce moment-là, vous avez des organismes de contrôle, justement, et de perception, eux-mêmes, dont les agents ne veulent pas mettre leur vie en danger pour leur boulot non plus, ils n'ont pas signé pour ça, et donc où eux-mêmes commencent à lever le pied, et à ce moment-là, vous avez forcément la capacité de perception de votre système lui-même qui diminue. Et à partir du moment où il diminue, ben vous, pour le coup, vous avez un système qui dérive vers ce qu'était la Grèce, justement, dont on disait qu'elle avait énormément de mal à percevoir les impôts. C'est quelque chose qui peut arriver. Ce n'est pas encore le cas du tout, mais c'est quelque chose qui peut finir par arriver. Et ça commence à arriver par le fait que vous avez une partie de l'économie, encore une fois, qui sort de l'activité. Parce qu'il faut bien se rendre compte de ça. Hein. Vous savez, il y a des gens... Alors, bon, déjà, le calcul est un truc de coin de table, donc c'est extrêmement discutable. Mais quand vous avez des gens qui vous expliquent que la fraude fiscale par an, c'est 100 milliards, et qu'en gros, s'il n'y avait pas de fraude fiscale, ça irait très bien, ils ont l'air de sous-entendre que la fraude fiscale, c'est uniquement le fait de gens très très riches. Or, la fraude fiscale, c'est exactement comme les impôts. C'est-à-dire que si ça atteint des volumes très importants, c'est pas parce que vous avez quelques individus qui font beaucoup. C'est parce que vous avez beaucoup d'individus qui font un peu. Et le fait est que si vous arriviez vraiment à quelque chose comme un ordre de grandeur de plusieurs dizaines de milliards de fraude fiscale, c'est parce que vous aurez tout un tas de gens qui fraudent quelques milliers d'euros par an. D'accord ? Et c'est pas des gens qui font des fortunes. C'est souvent des gens qui... gèrent leur niveau de vie avec ça, voilà, ils en mettent un peu, voilà, il faut un peu de black, voilà, c'est ça, c'est les gens qui font un peu de black. Et à la fin, sur un PIB de la taille de la France, ça peut faire effectivement des sommes qui sont importantes. Mais ça ne veut pas dire que c'est faisable, parce qu'en fait, le problème de votre niveau de fraude fiscale, c'est qu'en soi, c'est un résultat des taux d'imposition. Tout simple, c'est surtout ça, en fait. Ce niveau de fraude fiscale-là, quand vous avez un tel niveau de fraude fiscale, ça veut surtout dire qu'il y a un problème avec votre taux d'imposition. Parce que si vous décidez d'imposer tout le monde à 100%, ben à la fin, vous auriez probablement 2000 milliards d'euros de fraude fiscale par an, mais tout simplement parce que tous les gens feraient du marché noir et qu'ils déclareraient absolument rien. Ça ne serait pas du tout parce que tous les gens sont des sales fraudeurs dans le fond. C'est que ça dépend énormément du taux d'imposition que vous décidez. Et le fait est qu'on voit de plus en plus de gens qui ne gagnent pas des fortunes, qui se plaignent de ça, y compris, on voit beaucoup, et ça c'est très important, on voit beaucoup d'influenceurs qui le font. Je voyais encore une jeune fille tout à l'heure qui a été partagée là-dessus sur X et qui tournait pas mal, qui disait ça, et qui clairement, vraisemblablement, est une influenceuse. Et ça c'est important aussi parce que ça ne touche pas du tout les mêmes personnes, il faut bien comprendre ça, ça ne touche pas du tout les mêmes personnes dans la population que le vieux discours, on va dire, de la droite bourgeoise contre les impôts. Parce que moi, je veux dire, ça fait 20 ans que le discours anti-impôt, c'est essentiellement du discours droite bourgeoise. Voilà, effectivement, quand même, les impôts, il y a trop d'impôts, etc. C'est pas un discours très populaire, si vous voulez. C'est pas dans le peuple que ça parle, ce discours anti-impôt. C'est contribuable associé. C'est très gentil, j'ai des copains, mais c'est pas, si vous voulez, ça parle pas aux classes populaires. Bon. C'est tout à fait différent avec des influenceurs. Quand vous avez des influenceurs maintenant qui commencent à se plaindre des impôts, qui y partent parce qu'ils n'en peuvent plus, etc. Là, ça parle directement à un auditoire qui comprend ça et qui parfois est adolescent et qui se forme dans l'idée que ce pays, c'est de la saleté parce qu'il y a beaucoup trop d'impôts. Ça, c'est un changement qui, à mon avis, est très, très, très sous-estimé dans la mentalité de la population. Et c'est ça aussi qui fait apparaître cet affouérisme des profondeurs, on va dire, et peut-être parfois cet affouérisme de gauche aussi, de gauche dans le sens où, ben justement, pour revenir à la vidéo de Drôme à l'économie, toutes ces populations qui alors je veux bien qu'il y ait des gens qui disent que c'est de la tiers-mondisation, effectivement, parce que c'est dans les banlieues, que c'est beaucoup des populations immigrées qui se mettent à faire ça, etc., travailler sur les marchés, tout ça, bon. Moi, j'en croise dans mon métier beaucoup des gens, j'ai déjà rencontré des anecdotes là-dessus, hein, sur ceux qui d'ailleurs aident leurs parents sur les marchés pendant la semaine et qui le week-end, ou pendant les week-ends, pardon, et qui la semaine vont vendre du shit, et pour eux, c'est une activité comme une autre. Je veux dire, d'un coup, ils vendent des vêtements, d'un coup, ils vendent du shit. Pour eux, c'est du commerce. Ils ne se posent même pas la question de savoir s'il y avait véritablement une différence entre les deux. Bon. Mais le côté tiers-mondisation, ça veut dire aussi que, tout simplement, vous avez des populations qui sont aptes à travailler, qui sont aptes à entreprendre, d'une certaine manière, mais qui ne sont pas aptes à entreprendre dans le cadre français. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas aptes à entreprendre en ayant fait une déclaration, une création de société, la déclaration, en ayant fait une demande d'acre, en ayant fait leur inscription à l'URSSAF, leur déclaration d'URSSAF sur Internet. Il y a un moment, voilà, vous demandez un travail, une quantité de travail administratif aux gens, et vous vous privez ou vous forcez une partie de la population qui, au fond, n'a peut-être même pas la capacité à ça, parce que, je veux dire, quand vous importez la quantité de population illégale qu'on importe, d'accord, de clandestins, bon, qui ont un niveau d'études qui est primaire, hein, souvent, qui ne parlent pas français, etc., vous ne pouvez pas vous attendre, même si ces gens ont des capacités d'entreprendre dans leur langue, et qu'il n'y a peut-être pas de problème, vous ne pouvez pas vous attendre à ce que, d'emblée, ils puissent travailler en considérant qu'il faut ouvrir le compte et commencer à payer avant d'avoir touché le moindre euro, savoir qu'il y aura telle provision d'URSSAF, etc. C'est juste pas possible. Donc, on peut parler de tiers-mondisation, mais il y a aussi le fait de se priver de certaines choses qui devraient tourner dans l'économie. Et tout ceci, et ces populations-là, je pense qu'encore une fois, le discours anti-impôt de ces influenceurs parle. Ça leur dit quelque chose. Et ça se rejoint avec les préoccupations de Nicolas Kippé. Alors Nicolas Kippé, lui, ne veut pas rejoindre le mouvement du 10 septembre parce qu'il pense que c'est un truc de gauche, probablement salé, mais encore une fois, comme je vous l'ai dit maintes fois, c'est toujours la gauche qui sert de brise-glace dans ce genre de situation-là et qui cherche à casser le système. Donc tout ça, on le voit monter. Ça va vraisemblablement monter. On ne voit pas, après le 8, de solution de nouveau gouvernement qui serait mené avec l'Assemblée telle qu'elle est. La question, c'est est-ce que Macron voudra dissoudre ou pas ? S'il ne veut pas dissoudre, il y aura une pression sur lui-même. S'il dissout et que le résultat ne convient pas, il y aura une pression sur lui aussi. Et encore une fois, de toute façon, la pression est déjà là. Puisque 64% des gens qui veulent qu'il dégage, ça risque d'augmenter et vraisemblablement, ça augmentera. Autre sondage qui est cohérent avec celui-ci, 15% d'opinion favorable d'Emmanuel Macron dans les sondages. C'est en dessous du moment de la crise des Gilets jaunes. Donc, tout ceci vous donne un petit peu le cadre de la semaine dans laquelle on va entrer et qui, effectivement, a un petit côté semaine de tous les dangers. À l'échelle française, déjà. Ensuite, il se passe des choses à l'échelle européenne. À l'échelle européenne, donc, je disais, il y a l'adoption du Mercosur. Alors, avec des garanties qui sont données, je ne suis pas allé voir techniquement ce que c'était, si ça rimait à quelque chose, etc. Le problème, c'est que ça énerve beaucoup les agriculteurs. Alors déjà, les agriculteurs, ils étaient énervés à cause de la loi Duplomb, hein, je rappelle, qui a été censurée pour l'acétamipride hybride. Mais il y a cette question là aussi. Il y a cette question du Mercosur, et forcément, ça a fait remonter dans les tours les agriculteurs, parce qu'il faut se souvenir que les dernières fois qu'il y a eu une crise avec les agriculteurs, c'était aussi autour de la crise de la question du Mercosur. Et c'est intéressant la crise du Mercosur parce que c'est double problème. C'est problème français, avec des agriculteurs qui estiment qu'Emmanuel Macron ne fait pas son travail pour protéger les agriculteurs français face à l'Europe. Et ensuite, c'est un problème européen, avec les agriculteurs qui veulent carrément aller à Bruxelles pour dégager von der Leyen, grosso modo. Donc ça, c'est premier point, cette crise-là, c'est un peu cette fragilisation-là d'Ursula von der Leyen sur ce sujet-là. Deuxième sujet, il y a, ça vous le savez, j'en ai déjà parlé, mais juste je le mentionne, le fait qu'il y a une procédure judiciaire qui vient d'être engagée devant la Cour de justice de l'Union européenne par les parlementaires européens pour contester l'utilisation par Ursula von der Leyen de l'article 122 du traité de l'Union européenne. L'article 122, je rappelle, c'est l'équivalent du 49.3 en France, c'est-à-dire c'est un truc pour éviter un débat au Parlement, qu'elle a utilisé pour faire passer le mécanisme SAFE qui vise à réarmer l'Europe, en fait. C'est les mécanismes d'attribution de l'argent et des marchés dans le but de réarmer la défense européenne. Yeah. Donc elle a ce problème. Autre problème qu'elle a, il y a des voix qui commencent à s'élever au Parlement européen, et même à la Commission, je crois que c'est même Séjourné qui en a parlé, et probablement cornaqué par Macron, c'est Macron qui a dû faire tatailler et lui dire « tu vas dire ça ». Vous avez des gens au Parlement européen qui commencent à se dire « c'est le Parlement européen qui va devoir examiner et changer les textes, surtout, voter pour faire des changements de texte, pour supprimer les droits de douane sur les produits américains que von der Leyen a promis à Donald Trump, von der Leyen a promis à Donald Trump qu'il serait supprimé. Donc elle a dit d'accord, on va supprimer les droits de douane à hauteur de ceci, cela, pour agir conformément à l'accord qui a été décidé avec Donald Trump. Et simplement, ça doit passer par le Parlement européen, ça, pour faire les changements qui correspondront à ça. Et il semble que ça ne soit pas si facile à faire passer au Parlement européen. Vous avez beaucoup de gens qui disent « oui, mais pour tel sujet, pour tel sujet, pour tel sujet ». Puis c'est l'occasion pour les lobbies qui voient leurs propres avantages directs menacés par cet arrangement euro-américain, d'essayer de le faire sauter en deuxième round, si vous voulez. Donc ça, c'est une autre difficulté pour von der Leyen. Ça la met en danger. Troisième chose, il y a la volonté de la France insoumise d'aller déposer une motion de censure contre von der Leyen. À peu près en même temps, d'ailleurs, qu'ils ont l'intention de déposer la motion d'institution contre Macron. Ils ont la suite dans les idées. Il faut se souvenir qu'il y a quelques mois, il y a une motion de censure contre von der Leyen qui n'a pas été votée, qui n'avait pas été votée par LFI, parce qu'ils estimaient que c'est une motion de censure d'extrême droite, etc. Cette fois-ci, si l'extrême gauche dépose une motion de censure, elle va la voter, l'extrême droite aussi vraisemblablement. Est-ce que ça suffira? Je rappelle qu'il faut deux tiers des voix pour faire tomber un président de la commission et une commission dans son ensemble d'ailleurs. Ça paraît assez difficile. Maintenant, il faut voir que de manière générale, l'influence de von der Leyen est de plus en plus contestée. Elle a énervé les Allemands en allant visiter les installations militaires en Lituanie, me semble-t-il, et en expliquant que, en gros, elle était en train de mettre en place le déploiement des troupes défense européennes. Et Friedrich Merz, le chancelier allemand, a déclaré publiquement que ça ne relevait pas de ses compétences, donc elle n'avait pas à s'exprimer là-dessus. C'est quand même une bonne manière de le tacler, hein, parce que, bon, que le leader allemand balance ça à la présidente de la commission elle-même allemande, c'est quand même une claque. Donc il y a une fragilisation, il y a une faiblesse à ce niveau, au niveau de l'Union européenne. Il commence à y avoir, depuis un moment maintenant, les éléments d'une tension, d'une opposition qui apparaissent entre, j'en ai déjà parlé, entre la Commission européenne et le Parlement européen, avec cette possibilité de basculement de l'alliance à droite Parlement européen. Ce qui est reproché d'ailleurs, c'est parce que von der Leyen est de plus en plus attaquée de tous les côtés, puisque c'est Valérie Ayer, la présidente du groupe groupe, alors je sais plus si elle, est président, si elle dirige le groupe à, au Parlement, je crois que oui, le Renew Europe, qui est le Renaissance au, au Parlement européen, allait demander à von der Leyen, elle a interpellé von der Leyen en lui demandant qui sont vos alliés, puisque le PPE va voter des projets de loi avec l'extrême droite. Et donc, là aussi, flottement du, de la part du centre autour du soutien à von der Leyen. Donc, ça commence à bouger pas mal à l'échelon européen, au plan politique, au plan institutionnel. Ça commence à s'agiter aussi avec le risque que nos, comment dire, que nos agriculteurs eux-mêmes débordent en direction de Bruxelles. Mais déjà, ils vont s'agiter chez nous. Et ensuite, en soi, l'agitation en France, forcément, risque de déstabiliser à l'échelle européenne de manière générale. Vous savez, j'ai souvent expliqué ici à quel point je pensais que le meilleur parallèle, peut-être, c'était avec la révolution allemande, encore une fois, en 1918, où vous aviez la Bavière qui avait fait une sorte de révolution dans la révolution, qui avait commencé la première, et qui a été probablement la région où la révolution a été la plus dure, hormis Berlin, parce qu'à Berlin, vous avez eu la révolte spartakiste, mais dans toute la Bavière, vous avez eu, la République des conseils de Bavière, qui était une république soviétique de Bavière, en fait, tout simplement, où des conseils comme ça avaient pris le pouvoir. Ça a duré quelques mois, ça a été assez sanglant, mais ça a favorisé, ça a précipité la révolution à l'échelle de l'Allemagne. Et donc, je pense qu'on a des éléments comme ça qui montrent qu'on se dirige vers ça, avec une situation qui se tend énormément en France et qui pourrait qui vraisemblablement pourrait faire la courroie de transmission à l'échelle européenne, en particulier si on ajoute à ça des tensions qui auraient lieu sur le flanc Est, puisque là, vous avez l'idée de développer l'armée de réassurance, vous savez, qui a été annoncée par Emmanuel Macron en Ukraine. Vous avez aussitôt Vladimir Poutine qui a répondu que les troupes européennes en Ukraine seraient des cibles légitimes pour l'armée russe. Alors, c'est assez amusant parce que les Européens ont dit que leurs troupes iraient en Ukraine une fois qu'il y aurait eu le cessez-le-feu. Donc, l'idée, c'est qu'elles n'iront pas pour se battre. Et Vladimir Poutine, lui, dit s'il y a des troupes qui viennent, elles seront la cible des cibles pour l'armée russe. Donc, dans quel cas, ça, c'est douteux. Mais ça aussi, ça peut précipiter la chute à l'échelle européenne comme à l'échelle nationale, parce qu'il ne faut pas se souvenir, il ne faut pas oublier que pendant la Révolution française, le lancement des hostilités de la France contre l'Autriche a eu un effet accélérateur, naturellement. Ça a beaucoup polarisé la politique à l'intérieur du pays, en particulier pour ou contre la monarchie, et c'est ça qui a fini par renforcer le camp républicain, qui était en même temps le camp le plus nationaliste, on va dire, à l'intérieur du pays. On peut imaginer d'ailleurs que si jamais en France vous aviez une tentative de virer Emmanuel Macron avec la rue qui s'énerverait, etc., on peut imaginer que de la part des pays voisins, par exemple de l'Allemagne ou de Bruxelles, des appels au calme en France en demandant au peuple français, voire en le menaçant, parce que ça risque d'arriver, en menaçant le peuple français que s'il y a trop d'instabilité en France, on ne l'aidera pas financièrement, que la BCE, etc., tout ceci pourrait avoir un petit effet manifeste Brunswick, vous savez, la menace contre le peuple Paris si jamais il s'en prenait à la personne du roi. Il pourrait y avoir un effet comme ça. Et moi, très honnêtement, ça fait partie des choses qui me font toujours un peu sourire quand on dit que la France risque de finir comme la Grèce, etc. Parce qu'il faut se rendre compte que, encore une fois, j'ai employé cette formule déjà, je ne sais plus si j'ai employé devant vous, que Bruxelles et Francfort, c'est-à-dire le capitale de l'Union européenne et le siège de la BCE, sont à quelques heures en char Leclerc du territoire français. Et personne n'a de quoi arrêter l'armée française. Je veux dire, l'armée française est la seule qui tient debout en Europe. Il y aurait peut-être les Polonais, mais il faudrait qu'ils viennent de loin. Et puis, je ne suis pas sûr qu'ils voudraient s'y opposer. Et puis, en plus, on a une arme nucléaire. Donc, en gros, on fait ce qu'on veut. Alors, ce n'est pas pour dire que, bien sûr, il faut aller taper sur tout le monde, mais c'est pour dire que si vous avez un pays comme la France qui bascule à un régime révolutionnaire, vous ne savez pas qui va arriver au pouvoir, mais ça sera vraisemblablement des gens qui auront une aptitude à la violence politique qui n'est pas du tout celle des vieilles élites qu'on a. Et donc, c'est tout à fait des gens qui sont capables d'avoir ce genre d'attitude menaçante. Donc, le genre de menaces qu'on pouvait avoir contre la Grèce ne sont pas applicables à quelque chose qui pourrait être fait vis-à-vis de la France. Surtout que la France a d'autres moyens de gêner l'Union européenne. On est en plein milieu, on la sépare pratiquement en deux, hein. On coupe toute la péninsule ibérique du reste de l'Europe. On a un réseau électrique fondé sur le nucléaire qui est la garantie pour les voisins de ne pas finir dans le noir, en leur permettant de rééquilibrer leur réseau régulièrement, d'ailleurs souvent au détriment de la durabilité du nôtre, en corrigeant leurs problèmes d'intermittence énergétique. La France est dans une situation, je veux dire, on a presque le pouvoir énergétique que Poutine essaie d'avoir avec le gaz, quoi, sur l'air du continent. Il faut se rendre compte de ça. Donc la France, de toute façon, surtout si elle passe aux mains de gens qui sont décidés à ne pas se laisser marcher sur les pieds, et pas dans une situation de se faire tordre le bras simplement parce que les Européens lui diront « on va pas faire ci, faire ça ». En gros, il y a capacité, alors ça serait terrible, hein, ça serait pratiquement une plongée dans la guerre civile à l'échelle européenne, mais une capacité d'aller se faire imprimer des euros, en gros, à la BCE, le flingue sur la tempe. C'est quelque chose qui n'est pas totalement à exclure. Ça s'est déjà vu dans l'histoire, ce genre de choses. Donc, il ne faut pas oublier qu'une fois que vous sortez des règles, vous sortez des règles. Voilà, les règles du jeu, elles ne s'appliquent plus exactement de la même manière. Donc, il y a un danger de déséquilibre à ce niveau-là, il faut se rendre compte. Hein. Si vous vous retrouvez temporairement même avec Mélenchon à la tête de la France, vous ne savez pas comment ça peut se passer. Donc c'est des choses qu'il faut avoir en tête, ça c'est quand même très très important, parce que c'est le genre de choses, à partir du moment où vous commencez à envisager un scénario de départ d'Emmanuel Macron, vous savez pas trop ce qui se passe derrière, c'est à ce genre de choses que vous êtes confrontés, hein. Ce genre de changement dans les élites, c'est extrêmement important. Et il n'y a pas seulement à l'échelle européenne que ça peut arriver, mais à l'échelle française que ça peut arriver, mais à l'échelle européenne. Et là-dessus, on a un truc très intéressant qui est sorti, je vais vous en donner lecture partielle. C'est un sondage qui est sorti dans Politico, je remercie les camarades du Telegram qui me l'ont relayé, qui est sorti dans, oui, je crois que c'est Politico, cette semaine, et qui est tout à fait fascinant parce que ça donne un signe assez net de situation ou de mentalité, on va dire, pré-révolutionnaire en France. Vous savez que en Europe, et de naissance, d'apparition du nationalisme européen et de l'État-nation européen. Vous savez, ce que je vous explique souvent sur la Révolution, c'est que, encore une fois, c'est la prise de pouvoir, ce sont les élites, en fait, non gouvernementales, c'est-à-dire celles qui ne sont pas au pouvoir, mais qui bénéficient du pouvoir, on va dire, en général, ou en tout cas une partie d'entre elles, qui lâchent les élites gouvernementales parce qu'elles estiment ne plus assez bénéficier du pouvoir, justement, et que ce pouvoir est incompétent à défendre leurs intérêts. Alors elles décident, on va dire, de prendre la main elles-mêmes. Et généralement, pour ce faire, elles s'appuient sur le peuple, qui lui aussi estime que les dirigeants ne servent pas à ses intérêts, et en gros, ces élites alternatives disent au peuple « nous, on gérera mieux les intérêts que vous ». Si vous prenez la Révolution française, vous avez la bourgeoisie qui, en gros, dit au peuple français « on gérera mieux vos intérêts que la vieille noblesse qui est... complètement consanguine, etc. C'est ça l'idée, hein, qu'il y a dans le truc. Et en même temps, ça porte une fierté de groupe. Hein. Les révolutionnaires français se désignaient comme patriotes et ils avaient cette volonté de s'appuyer sur le patriotisme aussi populaire. Et ce qui vous explique, déjà, ça vous explique tous les mouvements d'impérialisme revanchard, parce que justement, il y a cet appui des élites sur la volonté nationaliste de la population. Donc ça nourrit ça. Et puis vous avez souvent un effet expansionniste immédiat, hein. En gros, les révolutionnaires, les Girondins, leur idée, ça a été, mais on va épiller la Belgique et puis ça va nous payer, hein. C'était ça l'idée à l'époque. Et donc ce qui est très intéressant avec ce sondage de Politico, c'est qu'il dit la chose suivante. Le titre, c'est « Les électeurs européens croient davantage en une Europe souveraine que les élites ». Extrêmement intéressant. « Pour une fois, l'intégration ne sera peut-être pas menée du haut vers le bas, mais du bas vers le haut ». Alors l'article commence par rappeler ce qui est vrai, qu'en général la construction européenne, ça a plutôt été une construction technocratique qui vient d'en haut. C'est vrai que c'est souvent le cas de toutes les constructions nationales, ça vient d'en haut, hein, les élites de l'ensemble qui se réunissent entre elles pour essayer de faire un truc plus gros. Donc depuis les années 2000, les partis nationalistes de tout le continent sont souvent mobilisés contre une Bruxelles antidémocratique. Avec l'idée, bien sûr, qu'il y a eu les référendums qui ont été foirés et donc le fait que les élites hésitent désormais à appuyer et encourager l'intégration sur un certain nombre de sujets. Mais, chose très intéressante, une vaste majorité d'Européens sont favorables à une union de défense. Donc ça, c'est une union militaire, en fait, hein, on est d'accord. Depuis 2011, le soutien à une défense commune a explosé en Suède et en Irlande, plus 27 points, en Finlande, plus 24 points, et au Danemark, plus 17 points. Les Danois ont même voté pour l'abandon de leur clause de non-participation de longue date à la défense de l'UE. 81% des Européens sont favorables à une politique de sécurité commune contre seulement 15% qui s'y opposent. Autre chose intéressante, le Grand Continent, dans 9 pays européens, a fait une enquête montrant que l'UE devrait être en mesure de mettre en place une défense européenne indépendante des États-Unis. En Allemagne, 69% des personnes interrogées ont déclaré préférer une armée européenne à une armée de défense nationale et à l'OTAN. Donc pour les Allemands, les Allemands sont très largement plus favorables à la mise en place d'une armée européenne qu'à une armée simplement nationale, c'est-à-dire y compris une armée allemande, et à l'OTAN. Donc avec le soutien des États-Unis. Très intéressant, c'est pas ce qu'on voit dans les décisions de la population. Si vous regardez par exemple la question de l'Ukraine, la priorité des Allemands, c'est que les Américains soient là avec eux, sinon ils veulent pas y aller. Apparemment dans la population, c'est différent. Et même en Pologne, vous avez plus de gens qui pensent qu'une solution européenne est préférable à l'OTAN ou une solution nationale. Ils sont 37% contre respectivement 29 et 24. C'est-à-dire qu'ils sont moins enthousiastes pour la défense européenne que les Allemands. Mais enfin, ils le sont quand même plus que pour la défense nationale. Donc c'est extrêmement intéressant ça parce que, assez typiquement, alors c'est très intéressant parce qu'il y a d'autres sondages qui montrent que en règle générale, les Européens, les mêmes électeurs, pensent que les élites seront décevantes sur ce sujet-là. C'est-à-dire qu'il y aura incapacité à prendre des décisions assez vite. Et ça, encore une fois, donc c'est très intéressant parce que vous avez une sorte de souverainisme européen, militaire, comme ça, qui apparaît. Et qui ne se sent pas représenté utilement et correctement par ses dirigeants. Et ça, c'est encore une fois un signe pré-révolutionnaire extrêmement intéressant en général. Quand vous avez la population qui pense que les élites ne sont pas assez nationalistes, et que donc il faudrait les remplacer pour des gens qui défendraient plus ça, et ça s'est surtout développé en plus depuis que Donald Trump est arrivé aux États-Unis et que les élites européennes apparaissent pour une espèce de d'excroissance de l'establishment américain, mais pas suffisamment attaché aux purs intérêts européens, même si on les a vus faire des exercices dans ce sens cette semaine. Donc, les semaines passées. Donc voilà où on en est à l'aube de cette semaine qui va être extrêmement importante. On a une situation européenne qui se cale à peu près, en tout cas qui n'est pas très en retard sur la situation française. Je vous avais dit que quand on voit par exemple ce qui s'est passé sur la loi déforestation, je ne reviens pas dans le détail, mais ce qui s'est passé sur la loi déforestation en septembre dernier, qui était très analogue à ce qui s'était passé en janvier chez nous donc en septembre dernier, c'était en septembre 2024, et en janvier 2024 chez nous pour la loi immigration. Et maintenant, voilà, von der Leyen qui se voit reprocher de faire l'équivalent de 49-3. On a l'impression d'être au moment où Elisabeth Borne l'est multipliée. L'Europe a une espèce de retard dans la crise institutionnelle d'un an à peu près sur la France, mais ça avance aussi. On n'est pas au même niveau de brutalité, mais ça avance, et l'agitation risque de s'accroître en France. Et l'agitation en France risque d'accroître l'agitation ailleurs en Europe, surtout que forcément, si jamais la France commence à être en difficulté financière et qu'il y a le gouvernement allemand qui, plutôt que de faire des leçons, décide d'aider un peu, ça va énerver beaucoup de gens en Allemagne aussi, notamment les gens de l'AFD qui ne veulent pas payer pour nous. Vous allez avoir d'autres endroits aussi où la population s'agite, par exemple en Angleterre vraisemblablement, où on va suivre aussi cette semaine, j'en ai pas reparlé, mais c'est vendredi je crois, ou samedi prochain, le 13, qu'il y a également des rassemblements qui sont prévus, donc qui vont être pas mal inquiétants, évocateurs. On va voir si ça bouge beaucoup dans la suite du phénomène des drapeaux, etc. Vous pouvez avoir une espèce de contagion qui se met en place à l'échelle européenne, où les gens descendent dans la rue, ont envie de manifester comme font les voisins. Vous savez, une espèce d'effet printemps arabe, mais à l'intérieur de l'Europe, hein, ou printemps des peuples à l'époque, pour le coup, ça s'était effectivement passé à l'intérieur de l'Europe. Ces choses qui peuvent se passer et lancer la révolution européenne comme ça. Je pense que ça prendra un peu plus de temps que le démarrage des choses en France, mais clairement, encore une fois, ce qui va se passer cette semaine donnera beaucoup d'indications. Je ne dis pas du tout que dans une semaine, tout aura changé, hein, ce n'est pas ce que je dis, mais on va déjà voir vers quoi on se dirige. Je veux dire, quand on va se reparler la semaine prochaine, alors probablement qu'on se reparlera avant la semaine prochaine, en fonction de la façon dont les choses se passeront la semaine qui vient, j'aurai sans doute des lives spéciaux pour commenter un petit peu en direct. Mais surtout en fonction de ce qui se passe un peu des trucs, ou alors je ferai des live courts sinon. Mais on avance vers ça. On risque d'avancer vers aussi des problèmes à l'échelle européenne, je disais. Et il y a un autre sujet qui risque d'avancer aussi cette semaine, ou en tout cas, ça pourra peut-être donner des idées. C'est avec le déclenchement de l'exercice Zapad en Biélorussie. Là aussi, on verra ce qu'il en est en vrai. C'est-à-dire qu'au mois de février dernier, les Ukrainiens disaient « Attention, les Russes entraînent 150 000 soldats en Biélorussie, ils sont là, c'est dangereux », pour dire à l'OTAN « Faites attention au niveau de, des Pays-Baltes ». Les Russes, eux, ont dit qu'ils diminuaient le volume de leur exercice. Je crois en dessous de 12 000 hommes, un truc comme ça, mais c'est pour des questions de seuil qui ne nécessitent pas de faire venir des experts internationaux. Ils le font souvent, en général, ils déployaient quand même plus d'hommes que ça. D'après les renseignements que j'ai vus, occidentaux, on pense qu'ils déploieraient plutôt autour de 30 000 hommes, c'est ça l'idée, parce qu'ils ont besoin des autres en Ukraine, grosso modo. Mais je pense qu'à partir du moment où les exercices vont avoir lieu, et donc c'est à partir du 12, là, on verra sur le terrain, effectivement, qu'est-ce qui bouge. Je suppose que les services de renseignement occidentaux auront une meilleure idée des volumes de troupes qui sont engagées en gros, les projections qu'on fait a priori comme ça avant. Et donc, à partir du moment où on saura ça aussi, ça donnera une idée de à quel point les menaces de Vladimir Poutine en direction des Pays-Baltes sont réelles, puisqu'il faut savoir que depuis quelques semaines, là aussi, on voit de plus en plus dans la propagande russe interne d'attaques contre les Pays-Baltes. Avec l'accusation de frappe de drones ukrainiens qui viendraient des Pays-Baltes, avec des accusations historiques sur le sort des Pays-Baltes, etc. Donc tout ceci aussi joue, et ça rajoute une tension, et si la tension militaire s'accroît en même temps qu'il y a des tensions sociales chez nous, forcément ça peut avoir encore une fois les mêmes effets accélérateurs que la guerre à l'extérieur a eu au début de la Révolution française, mais qu'elle avait aussi au début de la Révolution allemande, puisque c'était la fin de la Première Guerre mondiale, ou encore au début de la Révolution russe. C'est quelque chose d'extrêmement classique, la mise en tension de la population, et encore une fois, le fait que quand vous mettez un pays dans une situation, un contexte de tension militaire, avec risque de guerre, hein, tout simplement, vous exercez une tension sur le corps social. Et vous avez deux solutions. Soit vous avez un corps social qui est en bonne santé, qui est relativement uni dans une démocratie qui fonctionne, et là, ça tiendra le choc, comme en 1914. Soit vous avez un système qui est déjà fatigué, avec ce que j'appelle une lézarde intérieure, une fissure déjà, et votre matériau est fragilisé, il a perdu ses propriétés mécaniques, et dès que vous exercez une pression dessus, il éclate, et c'est ça la révolution, en fait, hein, tout simplement. Et donc, il y a un gros, gros risque là-dessus, pour les raisons que j'ai dites, à la fois en France et en Europe. Et tel est l'état de la situation avant d'entrer dans cette semaine qui s'annonce fort agitée. Voilà ce que je voulais dire ce soir. Est-ce que, avant que M. Portal nous dise si nous avons eu des questions, je vous rappelle que nous avons besoin de votre soutien pour l'activité de cette chaîne. La semaine dernière, je vous ai parlé surtout du bulletin. Cette semaine, je vous reparlerai surtout de l'accès à tout le catalogue des vidéos, notamment tous les essentiels. Ça fait des dizaines, des centaines d'heures de visionnage de vidéos possibles. Désormais, ils sont plus en accès libre, ils sont en accès via la première degré de souscription, mais on a supprimé absolument toutes les pubs. Donc, si vous voulez regarder désormais, c'est sans pub. Si vous voulez vous faire du binge-watch de vieilles émissions, c'est désormais possible. Et sans avoir à vous taper régulièrement les pubs. Donc c'est quand même, je pense, beaucoup mieux, et tout le monde y gagne. Mon cher Léo, est-ce que nous avons des questions ?
Je disais donc, je vais vérifier pour les questions, mais en tout cas, il y a des annonces. On souhaite la bienvenue à Phil Fabrienko, à nouveau bienvenue. En tant que compagnon historionome. On souhaite la bienvenue à Laetitia Le Chaton en tant que compagnon historionome.
Bienvenue.
Ensuite, je pense qu'on n'a pas de questions de dons. Et je vais aller vérifier sur Tipeee.
Alors, on en a d'autres. On en a d'autres qui sont bienvenus. Il y a Amandin, semble-t-il, aussi, qui s'est ajouté. Alors, je ne sais pas si c'est Amandine et il manque le nom. Je crois que c'est Amandin. Ces derniers jours, c'était aussi ajouté Wimlock, Marwan et Jean-Christophe Blouet et Rudolf Millet. Et voilà, je pense que
sur
c'est
Tipeee,
ce que je n'avais pas mentionné.
Sur Tipeee, on remercie Loïc, on remercie Philippe, on remercie et on remercie Claire aujourd'hui aussi.
Oui, notre chère Claire, hein,
la
queen, pour son assiduité, toujours. Merci beaucoup. Et merci à tous les autres. Alors, est-ce que tu m'as dit qu'on n'a pas de questions ?
Non.
Très bien. Eh bien, écoutez, nous allons écourter, nous allons rejoindre le live privé de nos chers souscripteurs. On a hâte de vivre cette semaine, hein, très honnêtement. Il va se passer plein de choses qu'on sera ravis de discuter. Moi, pour moi, c'est toujours très intéressant parce que au plan, il y a un côté expérimentation. Hein, vous savez, c'est comme quand les astronomes qui pensent qu'il y a quelque chose à observer, qui veulent vérifier quelque chose, ils anticipent et ils savent que cette semaine, ils vont pouvoir regarder et que dans un sens ou dans l'autre, ils auront une réponse. Et donc, intellectuellement, c'est très intéressant. Je vous remercie d'être tous là avec nous pour suivre ça, pour en profiter. Et à la prochaine et vous laissez pas faire.
Avant ça, on remercie Denis Patron G4 pour son don. Voilà.
Merci
pour son don et son émoticône d'un garçon avec les joues rouges et les cheveux violets.
Il a l'air content, et nous aussi.
Du coup, on y va.
Rejoignez-nous
dans le live privé.